voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les thérapies alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. La voix du Kaizen donne la parole à ces thérapeutes alternatifs qui complètent la médecine allopathique en nous permettant de soigner notre corps et parfois notre esprit. Ingénieur de formation, Nicolas Souchal s'est dirigé vers les thérapies alternatives, la naturopathie, la PNL et diverses techniques psychocorporelles et énergétiques. Nicolas cultive une approche globale de l'être humain. Il s'est spécialisé dans les nouvelles méthodes de thérapie quantique et de biorésonance. Donc c'est une rencontre où je vais apprendre à savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à être dans cet univers de la thérapie. Alors sur ta plaque, psychopraticien transpersonnel formateur. Donc en fait je veux tout savoir. Parle-moi déjà un petit peu de toi, de ton univers et de ce qui t'a amené à t'intéresser à l'être dans sa forme la plus holistique et globale possible.
Bonjour à tous. Alors sur ma plaque il y a marqué psychopraticien transpersonnel. Pour moi, la difficulté, ça va être plutôt de trouver un terme assez concis pour exprimer les différentes casquettes que j'ai dans l'accompagnement. À l'origine, je suis ingénieur de formation, donc apparemment rien à voir avec l'histoire des médecines alternatives, ou des thérapies alternatives, on va dire. En fait, pendant quelques années, j'ai travaillé dans le domaine des thérapies énergétiques, plutôt, la thérapie quantique en particulier, où je m'intéressais à la dimension vibratoire de l'être humain et comment on va pouvoir identifier avec certains dispositifs des perturbations dans le système vibratoire et énergétique de la personne, puis ensuite permettre la reprogrammation, la réinformation cellulaire avec justement des différentes techniques, différents appareils notamment. Et c'est ce qui faisait pour moi le pont entre mon parcours d'ingénieur en sciences et technologies de l'information et le monde de la thérapie et du développement personnel.
Mais là quand c'est intéressant déjà comme à la base, parce que moi je vois, enfin c'est peut-être une projection de l'esprit, mais le côté ingénieur, le côté très carré, très structuré, et le côté énergétique, le côté un peu ésotérique qu'on ne peut pas forcément expliquer.
Mais justement, en fait, moi pendant mon parcours d'ingénieur, en fait dès le début de ma, comment dire, après mon baccalauréat et le début de mes études, je me suis intéressé personnellement à ces phénomènes justement ésotériques, c'est bien le mot l'univers dans lequel je me suis plongé, et j'avais à la fois un esprit rationnel que j'ai toujours, hein, je l'ai pas perdu, on va pas perdre comme ça des qualités et des exigences, et cet esprit rationnel, si justement il est bien placé, il va laisser de côté des phénomènes qui apparemment peuvent être questionnés avec la science, comme par exemple les phénomènes de communication à distance, de télépathie, les phénomènes, quand on parle de fantômes ou d'entités ou de choses comme ça, ça fait quand même depuis quelques millénaires qu'on parle de ces phénomènes, donc soit on dit j'y crois pas, et dans ce cas c'est pas scientifique, c'est de la croyance et c'est pas mon domaine, soit on s'intéresse à savoir c'est quoi ce phénomène ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est réel ? Et si c'est réel, comment ça marche ? Et moi, c'est ce que j'ai questionné, en fait, pendant mes études d'ingénieur. Est-ce qu'il y aurait un substrat, j'ai envie de dire, physique à ces phénomènes vibratoires, à ces phénomènes subtils ? Et effectivement, pour moi, ça existe. Et je peux, aujourd'hui, donner un modèle explicatif avec le domaine des ondes électromagnétiques pour expliquer un certain nombre de phénomènes subtils, apparemment ésotériques ou paranormaux, qui sont en fait juste pas matériels, pas physiques au sens matière, mais vibratoires et au sens biophysique.
Tout simplement.
En fait, oui, tout simplement. Quelque part, après, il y a toute la dimension psychique qui intervient, on va en parler, mais d'abord, pour moi, il s'agit de regarder un phénomène qui existe, ou qui semble exister, en tout cas que des personnes décrivent, et puis le questionner avec un œil scientifique. Et pour moi, c'est ça la démarche scientifique, c'est d'accepter de ne pas savoir, de questionner, d'utiliser les modèles et les phénomènes, les lois physiques qui existent, et puis de voir, voilà, est-ce que quelque chose de cet ordre peut correspondre à une explication. Et moi, j'ai fait ça pendant toutes mes études d'ingénieur, pardon. C'est-à-dire que en même temps que j'apprenais moi-même ces phénomènes vibratoires, la communication de l'information, dans les télécommunications, on utilise ça tous les jours, hein. On s'étonne plus aujourd'hui qu'avec nos téléphones portables, on puisse accéder à Internet, communiquer à distance par de la communication invisible. Ça nous étonne plus, ça. Et pourquoi est-ce que l'être humain il pourrait pas lui-même communiquer directement de manière invisible à distance? En fait, il le fait.
Comment? Donne-moi des exemples ou des cas précis, des cas concrets.
Un cas précis, le premier qui me vient, c'est par exemple une mère et son enfant. On a deux êtres qui sont liés très très fortement depuis la naissance et même avant. Donc là, on peut penser, petite parenthèse, à la physique quantique quand elle nous dit que deux particules qui ont été en contact à un moment donné continuent d'échanger de l'information à distance et instantanément pendant toute leur histoire, dans le temps. Une mère et son enfant... Il peut se produire des situations, par exemple, où l'enfant a un accident, une situation de danger, et où la mère va avoir une intuition, avoir un ressenti, voire, et même des années après, une montée de lait, alors qu'elle n'allait plus son enfant. Donc ça, c'est des choses qui ont été observées. Parce qu'il y a une communication instantanée, à distance, avec son enfant. Donc ça, on sait que ça se passe. Ça, c'est un fait. Donc après, comment on va expliquer ça? On peut considérer qu'effectivement la mère et son enfant sont dans un lien quantique. Il y a une intrication entre la mère et l'enfant qui fait que au moment où quelque chose se produit chez l'enfant, chez la mère, elle accède à une information par ce qu'on appelle le champ. Donc ça, c'est peut-être une notion dont on va parler. Donc ce champ informationnel, ce champ unitaire qui en fait englobe toute chose et dont les particules de matière, les êtres que nous sommes, sont des émanations. Nous sommes des émanations du champ, d'un champ unitaire, d'un champ de conscience, dont toutes les traditions spirituelles et énergétiques nous parlent depuis la nuit des temps. Et du coup, la mère va capter une information de ce champ, en lien avec son enfant, inconsciemment bien sûr, et puis ça peut après émerger dans sa conscience par « tiens, je pense à mon enfant, tiens, je me fais du souci pour Maël ». C'est le nom de mon fils. Et après, on va s'apercevoir si... Est-ce que c'était juste une peur, une projection, une anticipation? Ou est-ce que c'est effectivement quelque chose que j'ai capté et qui s'avère être plutôt de la télépathie, on va dire?
Tu parles aussi de quantique, donc ces lois quantiques, c'est un mot qui est très, très à la mode aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par quantique, physique quantique? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer, nous le définir?
Oui, c'est très à la mode, je suis bien d'accord. Parfois, utilisé un peu à tort et à travers, malheureusement. Justement, tu me posais la question, tu disais tout à l'heure, mais ingénieur, là, tu nous parles de vibratoire, c'est un peu ésotérique. Justement, pour moi, c'est la physique quantique qui a fait le pont entre mon esprit scientifique rationnel et l'ouverture à plus vaste, l'ouverture à plus subtile ou à un petit peu, on va dire, à plus intuitif. La physique quantique, elle nous dit quoi? D'abord, ce sont des scientifiques au début du XXe siècle qui sont aperçus que un certain nombre de phénomènes qui se produisaient ne rentraient pas dans le modèle scientifique de l'époque, le modèle électromagnétique et newtonien. Et du coup, ils ont été obligés d'élaborer un nouveau modèle et pour rendre compte de phénomènes, notamment en lien avec l'interdépendance entre le sujet de l'observateur, en fait, d'une expérience, entre le sujet de l'observation et l'observation elle-même. Et ils sont aperçus que, en fait, on ne pouvait pas séparer de manière absolue, comme on l'a toujours fait depuis la nuit des temps en science, l'objet que l'on observe et puis le sujet qui observe, le sujet de l'expérience. Et du coup, dans le domaine vu que c'est ça qui nous intéresse, des médecines alternatives, le domaine de la santé, de la conscience, comment est-ce que ça vient, quel intérêt est-ce que ça a de parler de physique quantique? C'est que la personne, depuis qu'elle existe, depuis sa structuration la plus archaïque, c'est-à-dire la gestation, puis même ses mémoires transgénérationnelles, elle s'est construite une identité. Nous sommes tous construits une identité avec des attitudes, des programmes, une façon de réagir aux situations, des mécanismes de défense, des modes relationnels, etc. Et tout cela, c'est en fait des façons d'interagir avec ce champ, d'interagir avec ce que l'environnement nous propose en fait à chaque instant. Et ces modes relationnels, en fin de compte, ils sont appris aussi pour nous pour se défendre. On a appris ça pour se défendre par rapport à des conflits. Tiens, par exemple, si je vais vivre là, dans quelques instants, une peur archaïque, ça va être impossible pour moi à gérer. Donc je préfère me défendre, je préfère bloquer et ne pas accéder à l'information. Donc je vais voilà, faire une petite blague, par exemple, je vais utiliser l'humour comme mode de défense. Bon, bah maintenant, si on regarde à travers le spectre de la physique quantique, de la science, on peut se dire que au moment où, en fait, l'information m'arrive, je vais me mettre dans un mode de résonance qui va me permettre de bloquer, de créer une... je vais devenir une particule, je vais plus être en phase, je vais plus être en résonance avec la situation, je vais m'identifier à un moi séparé, à une particule qui va avoir une mémoire, et je fonctionne comme ça depuis 30 ans, 40 ans. Et là, je suis plus en lien avec la vie, je suis plus présent à ce qui est là, maintenant. Je suis juste, quelque part, je suis un peu mort. Je suis, quelque part, je fonctionne sur un mode passé qui fige une réalité où je vais reproduire toujours les mêmes programmes, plutôt que d'être en résonance et être à l'écoute de qu'est-ce qui est vivant ici et maintenant. Et je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Et l'idée, c'est que si je vais, à cet instant-là, avoir un regard... Je vais ouvrir ma conscience et me dire, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Il y a un phénomène à l'extérieur qui me met en mouvement, qui me fait sentir peut-être une émotion, une peur. Tiens, si je mets de la conscience à cet endroit-là, à l'intérieur de moi, eh bien, je vais pouvoir, quelque part, accéder à de nouvelles informations. En mettant de la conscience, je vais accéder à de nouvelles informations. Tiens, j'ai peur, j'ai peut-être besoin de me sentir un peu plus en sécurité là. Je vais respirer, je vais prendre le temps, je vais me réancrer dans mon corps, je vais me remettre en lien avec mon poids, la terre, l'espace. Ah, et du coup, je vais continuer de rester en lien avec ce qui est, mais juste en retrouvant une sécurité intérieure. Et du coup, je vais peut-être pouvoir appréhender la situation en restant dans mon corps, c'est-à-dire dans la dimension physique particulière, si je reviens sur cette notion de particule, mais en même temps que je vais pas être obligé de me bloquer et de me fermer, de me couper de la relation avec l'extérieur. Et là, cette conscience, en fait, c'est ça que la physique quantique nous invite à faire. C'est mettre une conscience qui va nous permettre d'accéder à de nouvelles informations, à avoir la capacité de s'adapter, de rentrer en résonance avec le champ. De nouveau, on reparle de champ. C'est-à-dire, il y a l'environnement, il y a le champ des possibles. À chaque instant, je suis capable de m'adapter pour être en résonance avec l'environnement, avec la situation, sans me couper. Et je vais du coup accéder à l'information utile et idéale pour moi, pour être en résonance avec cette situation.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Ça me plaît bien, ça paraît trop simple. Comment, ce mot conscience, comment est-ce que tu vis les choses en conscience? Comment est-ce que tu mets de la conscience dans ce que tu vis à chaque instant?
Bon, j'écoutais une émission hier du site internet Vertical Project, et c'est justement sur le thème de la conscience, et il y a cette question qui est posée à différents chercheurs. Qu'est-ce que c'est pour vous la conscience? Donc voilà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aurais répondu à cette question? Pour moi, la conscience, déjà, c'est une caractéristique, une qualité de la vie. C'est, voilà, tout simplement, je commence par chose simple, c'est... c'est pas quelque chose qui est dans notre cerveau, c'est un phénomène pour moi réflexif, c'est-à-dire il y a ce qui est, et puis il y a la conscience de ce qui est. Je suis un être humain, c'est une chose, et je suis conscient que je suis un être humain, c'est une autre chose. Mais en fait, on n'a rien rajouté, en fait, là, on a juste réfléchi, non pas au sens mental de réfléchir, mais au sens plutôt d'un miroir, on a regardé ce qui est. Pour moi, la conscience, c'est lié à l'espace. À partir du moment où il y a un espace, où il y a de l'espace, il y a de la conscience. Du coup, on pourrait dire, l'espace, c'est une des caractéristiques premières de notre univers, du coup, il y a de la conscience partout. Ben oui, à partir du moment où il y a une particule, quoi que ce soit en fait, une étoile ou une particule, et qu'il y a juste un tout petit peu de distance, un tout petit peu d'espace au-delà de cette particule, enfin sur le côté, ben, il y a la possibilité de regarder cette particule, il y a la capacité d'être conscient de cette particule-là. Et du coup, pour moi, c'est juste la notion de l'espace, la conscience. Si je suis collé en fait à ce que je vis, il n'y a pas d'espace avec ce que je vis. Par exemple, je vis une émotion, je peux être pleinement dans mon émotion, et du coup, je suis identifié. Je égale mon émotion dans l'instant présent. Et à ce moment-là, il n'y a aucune liberté. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de liberté. Je suis juste embarqué dans quels sont les programmes que j'ai mis en place depuis que je suis né pour m'adapter à cette émotion. Peut-être je vais me couper et partir dans le mental. Peut-être je vais hurler si cette émotion, c'est de la colère, par exemple. Peut-être, ah bah si j'ai telle émotion, alors je vais développer tel mécanisme, et du coup je vais avoir une autre émotion, je vais avoir de la peur, ou, etc., etc. Je suis dans des programmes, il n'y a aucune conscience, et il n'y a aucune liberté et aucun changement possible.
Donc selon toi, en y ajoutant de la conscience, ça te permet une prise de recul pour pouvoir être observateur d'une situation et donc gérer ses émotions ou gérer ton quotidien d'une manière consciente, donc créer en fait ta réalité.
Alors, est-ce que l'on crée sa réalité? Ça, c'est encore un autre aspect de la question. Mais en tout cas, oui, c'est la capacité à prendre du recul et à observer ce qui est. Pour moi, c'est vraiment ça qui est essentiel. D'abord, c'est ne rien faire. On ne va pas créer dans un premier temps. On va juste observer. Tiens, ah, là, je suis en colère. Je fais rien, en fait. Je mets l'attention sur. Mais ça, c'est comme tu posais la question, comment on fait? Bon, on va y venir peut-être juste après. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est, il se passe quelque chose, j'ai une sensation dans mon pied, un petit gratouillis dans mon pied. Soit il y a juste le gratouillis, soit, ah, je sens qu'il y a le gratouillis. J'observe le gratouillis. Ou j'observe l'émotion. Ou j'observe que j'ai des pensées. Ça, pour les pensées, c'est difficile. Souvent, on est identifié à nos pensées et nos croyances. On est collé à ça. Mais si, là, ah, on se met à observer, tiens, je suis en train de penser que, voilà, je ne sais pas ce que je vais dire là dans quelques minutes par rapport à la question comment on fait pour la conscience. Tiens, il y a cette pensée qui passe dans ma tête. Mais à partir de ce moment-là, je suis plus soumis en fait au fil quelque part que la vie voudrait me tendre, comme s'il y avait justement une sorte d'emprisonnement. Ah, il va falloir que je fasse ça, etc., etc. Non, je peux me déposer dans ce non-savoir, dans ce je ne sais pas. Il y a cette pensée, il y a cette émotion, il y a cette sensation. J'observe ce qui est là. Et je ne fais rien. Et c'est parce que je ne fais rien que quelque chose va se passer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement que je deviens créateur. Ça, on entend beaucoup ça dans les mondes du développement personnel. Devenez créateur de votre vie, créez votre vie, soyez libre, je sais pas quoi. Si c'est l'ego si c'est le moi-je qui est soi-disant libre ou qui est créateur, en fait, on est encore soumis au programme, on est encore soumis comment dire, à ce qui a été appris, à ce qui provient de nos mécanismes de défense, etc., etc. On est juste, c'est juste une autre façon d'être emprisonné. Pour moi, la vraie liberté, elle est, finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous permet d'être libre. Enfin, je veux dire, elle est ténue. La liberté consisterait peut-être juste à juste voir que finalement, il y a ce qui est, dans l'instant, à voir que je ne suis pas ça, je ne suis pas collé à ça. Qu'il y a justement ce je, et c'est ça qui nous relie à la physique quantique, on va y revenir certainement juste après, il y a ce je qui est en lien avec ce champ des possibles, c'est-à-dire qui fait juste un pas en arrière, il y a moi devant qui est en train de vivre des sensations, des émotions, des pensées, et puis il y a je qui est conscient qu'il y a moi. Et cette distance-là, c'est la conscience, le phénomène d'être conscient, et puis ce je qui observe, lui, il n'est pas le moi, il n'est pas Nicolas, il n'est pas le petit moi qui est soumis à un tas de choses. Il est plutôt comme en arrière-plan, en lien avec le champ des possibles, en lien avec l'être. Il est non conditionné. Et là, la liberté, elle vient. Mais ce n'est pas une liberté du moi. Le moi, il ne fait plus rien. Le moi, il s'efface. Le moi, il est tranquille et il est ouvert. Il est comme un réceptacle qui permet à ce que l'information, à ce que l'énergie, à ce que la parole juste, à ce que l'acte juste advienne à travers moi. Et là, il y a un grand sentiment de liberté, parce qu'il n'y a plus d'enjeu, et il y a la joie qui n'est pas loin derrière. Et il y a la célébration, il y a la grâce qui n'est pas loin derrière. Parce que finalement, je ne fais rien, et je me laisse traverser par la vie. Et là, c'est bon, c'est simplement bon. Pour moi, c'est super enthousiasmant, parce que moi, c'est ce que je vis chaque jour avec mes patients, ici même dans mon cabinet, qui me permettent d'accéder à d'autres façons pour moi-même de d'envisager le monde. C'est-à-dire que je crois que de s'ouvrir l'esprit, c'est vraiment une chance que l'on a. Donc, je suis content d'entendre que c'est ça que tu vis là tout de suite maintenant. Et j'ai pas perdu de vue ta question qui est les réalités quotidiennes. Je sais bien que cette émission, elle est autour de la question des médecines alternatives, du coup, de la souffrance, de la douleur, de la maladie, des conditions dans lesquelles nous vivons nous, êtres humains incarnés avec la vie imparfaite que nous avons. Je suis bien conscient de ça. Je m'y coltine moi-même chaque minute de ma vie pour moi. Et puis c'est aussi mon métier que de me consacrer à accompagner les autres. Donc c'est pas quelque chose de perché ce que je raconte là. Peut-être ça peut l'apparaître pour certains. C'est quelque chose pour moi qui est très enthousiasmant. Ce qui fait que voilà, peut-être j'accède à cet espace de joie en fait intérieure. Et en même temps, c'est très opérant, c'est très concret. Et je vais venir maintenant à des choses plus concrètes. Prenons l'exemple d'une personne qui a développé une maladie. D'abord, d'où elle vient cette maladie? Donc j'ai entendu que vous aviez interviewé déjà des naturopathes, des praticiens en Ayurveda, en énergétique, etc. Pour moi, chaque médecine ou chaque approche a son propre ou ses propres paradigmes, c'est-à-dire ses modèles de conception de l'être humain d'abord, de la vie encore avant, de l'être humain, de la santé, de la maladie et de la guérison. Moi, ce à quoi je me suis intéressé, c'est d'avoir une vision intégrale, une vision la plus large possible.
Il y a peut-être différentes formes de maladies aussi, tu peux pas toutes les mettre dans le même panier. Si on va parler d'un rhume, d'une sinusite ou d'un cancer, c'est pas la même chose.
Bien sûr qu'il y a plein de maladies, on dit qu'il y a 1000 maladies différentes, 500 maladies chaudes, 500 maladies froides, c'est ce qu'on dit aussi en naturopathie. Moi, dans ma formation en naturopathie, ce que j'ai bien appris et que j'ai bien retenu, c'est qu'il y a une maladie. Il y a qu'une seule maladie. Ou plutôt, il y a qu'un seul même mécanisme derrière les différentes formes que prennent la maladie. De même, nous sommes 7 milliards d'êtres humains, nous sommes tous différents, et en même temps, il y a l'être humain, il y a un être humain. Donc oui, bien sûr, il y a plein de maladies différentes, et on ne peut pas tout mélanger, on est bien d'accord. Et on ne va pas aborder ou traiter de la même façon un rhume et un cancer, on est bien d'accord. Et en même temps, on pourrait imaginer que si toutes les maladies fonctionnent sur le même modèle, c'est-à-dire un conflit, c'est-à-dire un conflit avec le flot de la vie, avec ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire je suis en résonance avec un environnement, je suis en lien avec l'environnement, et puis à un moment donné, quelque chose se passe qui fait que je ne sais pas bien répondre à une sollicitation de l'environnement et je bloque quelque chose. Soit c'est juste, ah, j'ai pas pu dire non à ma femme samedi soir quand elle m'a proposé d'aller au ciné alors que j'avais envie de rester à la maison, et ben là, ça va peut-être me faire un petit rhume justement dimanche matin. Donc j'y suis allé un peu à contre-cœur, et puis finalement on n'a pas passé une très bonne soirée, et du coup, dimanche matin ou lundi matin, j'ai une petite angine, et du coup un truc bloqué dans la gorge. Voilà, une petite maladie, mais oui, effectivement, ça s'est passé sur quelque chose. Il y a forcément un petit conflit, sur le plan physique, sur le plan psychique, qui s'est passé à l'origine d'un petit rhume. Ça, c'est ma croyance. Et puis après, on a à côté un cancer, ou voilà, une autre maladie très grave. Et là, on a un conflit beaucoup plus massif, quelque chose qui est vécu en profondeur, de manière très intime, où je trouve pas de solution et qui est plutôt une question de vie ou de mort, en tout cas vécue comme telle. Et là, il y a effectivement métabolisation d'une maladie grave. Mais pour moi, dans tous les cas, on est face à une situation où l'individu, j'ai envie de dire, l'organisme biologique que je suis, se trouve en conflit avec l'environnement dans lequel il est, au sens large. Et là, il va mettre en place, cet organisme biologique, une stratégie pour processer ce conflit, pour processer l'information. Et la maladie, c'est une des solutions c'est la solution à ce moment-là que l'organisme va trouver. Et après, si on regarde toutes les médecines, on voit qu'il y a toujours une stratégie d'aborder cette situation conflictuelle. Si on regarde les médecines traditionnelles, l'Ayurveda, eh ben on va regarder le lien avec les éléments de la vie, justement. On va prendre des remèdes, des plantes, on va d'abord regarder quels sont, justement, on va regarder les différents éléments, en médecine traditionnelle chinoise aussi, est-ce qu'il y a trop de feu, pas assez de terre, trop de vent, etc. On va regarder par rapport aux éléments de la vie, à la circulation de la vie, tiens, qu'est-ce qui est trop ou pas assez? Et on va remettre en circulation. Il y a quelque chose qui a été figé, on va remettre de la circularité. En médecine énergétique, on va, pareil, considérer qu'il y a un blocage d'énergie et on va essayer de remettre en circulation l'énergie. En médecine quantique, on va considérer qu'il y a comme une sorte de bug dans le système d'information. Il y a une information qui est erronée ou il y a une perturbation dans le traitement de l'information et on va réinformer le système informationnel énergétique du corps. En naturopathie, on va considérer qu'il y a des toxines qui sont bloquées dans le corps, qui n'arrivent pas à s'évacuer, et donc on va mettre en place un système de détoxination, de revitalisation, pour que ce qui est figé à l'intérieur puisse sortir, et que ce qui n'est pas ce à quoi on n'accède pas, de la vitalité, les nutriments, etc., puisse re-rentrer. On est toujours dans un système de circulation de l'énergie, de l'information, de la matière aussi, en dehors et en dedans du corps. Et moi, mon approche, en partant de la médecine quantique, puis de la naturopathie, de la programmation neurolinguistique aussi auquel j'ai été formé, et du décodage biologique pour arriver à la psychothérapie, c'est justement de considérer quel va être l'élément, le plus petit élément qui va nous permettre le plus grand changement. Et dans le décodage biologique, justement, on considère que la maladie est la résultante d'un conflit. Et mon constat, ça a été que dans les milieux de décodage biologique, on était assez fort pour identifier les conflits. Voilà, telle maladie correspond à tel conflit. Un bref entretien avec le patient va nous permettre d'aller identifier quelle a été la situation conflictuelle qui a généré la maladie. Bon, mais après, on fait comment? Et là, moi, dans ces milieux, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger, ce qu'on proposait comme solution. Et par ailleurs, ma pratique, parce que ça faisait déjà plusieurs années que je pratiquais, m'amenait à accompagner des personnes plus en profondeur dans leur vie intérieure et dans leur histoire personnelle. Et pour moi, d'accompagner en profondeur quelqu'un vis-à-vis de ses conflits existentiels en arrivant sur Terre, donc la petite enfance, voire la vie intra-utérine et autres, bah nous amène à toucher du doigt justement quels sont les conflits existentiels d'une personne qui vont être révélés par des situations plus tard dans la vie. Quand la personne va se faire agresser dans la rue et va développer peut-être une maladie derrière ça, en fait, il y avait un terrain propice. Peut-être elle allait vivre toute sa vie tranquille et pas déclencher ce conflit. Mais c'est pas le conflit à 36 ans quand elle se fait agresser qui va déclencher la maladie. Enfin, qui va causer la maladie. Ce conflit va juste déclencher quelque chose qui est déjà latent et qui est en fait présent dans l'histoire de la personne depuis sa plus tendre enfance, en fait depuis sa conception. Et l'idée, c'est que dans l'accompagnement de la personne à aller toucher du doigt, à aller regarder en fait ses peurs les plus fondamentales, les peurs existentielles, là, on va aller pouvoir accompagner la personne à aller réaccéder à quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, qui fait que la peur, à un moment donné, ne va plus exister. Et là, il n'y a plus de conflit possible si je sens que je suis l'enfant du ciel et de la terre. Pas je crois, parce que c'est bien de croire ça et de penser, mais ça va pas trop nous aider de croire ça. Si je sens à l'intérieur de mon corps, si je sens que le poids de mon corps peut se déposer sur la terre, que cette terre-mère, elle est vraiment ce qui me soutient inconditionnellement à chaque instant. Si je vis instant après instant avec cette conscience-là, bah, peut-être je vais me retrouver face à ces agresseurs et je vais pas avoir peur à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, peut-être eux-mêmes vont être déconcertés par mon regard. Et quelque chose va se passer. Je sais pas si ça va se passer comme ça. Mais peut-être que quelque chose à ce moment-là va faire que je peux pas mourir en fait. Parce que quelque chose de moi est immortel. Je contacte en fait ça. Et quelque part, si on revient à la question de l'accompagnement de la maladie, bah pour moi, c'est d'aller accéder en fait à cette ressource inépuisable d'énergie et d'information, et qu'on appelle le champ dans les médecines quantiques, qu'on appelle la vie dans toutes les traditions. La vie, en fait, est ce qui nous guérit. Donc oui, il n'y a qu'une seule maladie, et oui, c'est que la vie qui va nous guérir de cette maladie.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.